nous pouvons lire plusieurs passages qui sont de nature à nous encourager, à nous confier dans le Seigneur. Il y a beaucoup de psaumes qui ont ce caractère-là, et on pourrait peut-être commencer par le psaume 107. C'est un psaume qui est assez long, mais on peut commencer au début, dans les premiers versets qui plantent tout de suite le sujet du psaume et le sujet du livre, du cinquième livre. Psaume 107, verset 1, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblé des pays du levant et du couchant, du nord et de la mer. Ils errèrent dans le désert, dans un chemin solitaire. Ils ne trouvèrent pas de ville pour y habiter. Ils étaient affamés et altérés, et leur âme défaillait en eux. Alors, ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit dans un chemin droit pour aller dans une ville habitable. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Car il a rassasié l'âme altérée et a rempli de bien l'âme affamée. Ceux qui habitent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, liés d'affliction et de fer, de chaîne, parce qu'ils se sont rebellés contre les paroles de Dieu et ont méprisé le conseil du Très-Haut, et il a humilié leur cœur par le travail. Ils ont trébuché sans qu'il y eût personne qui les secourût. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leurs angoisses, et il les délivra de leur... crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et rompit leurs liens. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Car il a brisé les portes des reins et mis en pièces les barres de fer. Les insensés, à cause de la voix de leurs transgressions et à cause de leurs iniquités, sont affligés. Leur âme aborde toute nourriture et ils touchent aux portes de la mort. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris et les a retirés de leur fosse. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes, et qu'ils sacrifient des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils racontent ses œuvres avec des chants de joie. Ceux qui descendent sur la mer Ceux qui descendent sur la mer dans des navires et qui font leur travail sur les grandes eaux, ceux-là voient les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les eaux profondes. Il a commandé et a fait venir un vent de tempête qui souleva les flots. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leur âme se fond de détresse. Ils tournent et ils chancellent comme un homme ivre, et toute leur sagesse est venue à néant. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et les a fait sortir de leurs angoisses. Il arrête la tempête, la changeant en calme, et les flots se taisent, et ils se réjouissent de ce que les eaux sont apaisées, et il les conduisit au port qu'ils désiraient. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes, et qu'il l'exalte dans la congrégation du peuple, et le loue dans l'assemblée des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en sol aride, la terre fertile en terre salée à cause de l'iniquité de ceux qui y habitent. Il change le désert en étang d'eau et la terre aride en des sources d'eau. Il y fait habiter les affamés et ils établissent des villes habitables. Il sème les champs et plante des vignes. Il leur apporte du fruit, il les bénit, il se multiplie beaucoup et il ne laisse pas diminuer leur bétail. Ils diminuent et sont accablés par l'oppression, le malheur, le chagrin. Il verse le mépris sur les nobles et les fait errer dans un désert où il n'y a pas de chemin. Mais il relève le pauvre de l'affliction et donne des familles comme des troupeaux. Les hommes droits le verront et s'en réjouiront, et toute iniquité fermera sa bouche. Qui est sage prendra garde à ces choses et comprendra les bontés de l'Éternel. Ce psaume n'est pas le seul qui nous invite à crier à l'Éternel dans la détresse dans laquelle nous sommes. Si nous regardons un tant soit peu en arrière dans nos vies, lequel d'entre nous n'a pas été confronté à des difficultés dont on a l'impression qu'on sortira jamais, et que jamais la situation ne s'arrêtera, et que peut-être même elle s'empirerait. Dans la lecture, nous avons vu la mention des portes et des barres. Au verset 16, il a brisé les portes d'airain et a mis en pièces les barres de fer. Est-ce que les portes d'airain solides ne font pas allusion au fait que le Seigneur a aplani les difficultés qui nous semblaient impossibles, que les difficultés nous semblaient qu'on n'en sortirait jamais. Et il a mis en pièces les barres de fer aussi. Alors, plusieurs circonstances sont mentionnées. Peut-être ce verset 23 et suivant nous font allusion à ceux qui descendent sur la mer dans les navires et qui font leur travail sur les grandes eaux. Ceux-là voient les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les eaux profondes. Au milieu d'une tempête, comme par exemple celle qu'a subie l'apôtre Paul et qui nous est décrite à la fin du livre des Actes, chapitre 26-27, ceux qui, on sait, si on a subi aussi des tempêtes, alors que nous étions dans un bateau, nous avons pu constater que la fragilité d'un bateau, aussi gros qu'il soit, il est le jeu de puissances de la nature qui sont bien plus grandes que les nôtres, que notre petit bateau. Et les disciples, quand ils étaient sur la mer avec le Seigneur Jésus qui dormait sur un oreiller, dans le bateau, n'ont-ils pas, eux aussi, constaté à la fois le secours que l'on peut retrouver dans la puissance de Dieu et la tendresse du Seigneur Jésus qui leur dit « gens de petite foi ». Est-ce que cela ne nous caractérise pas plusieurs fois dans ces différents tableaux qui nous sont présentés au psaume 107, à chaque petit tableau, chaque petite description de situations différentes, il y a quelque chose qui, une structure qui revient. D'abord, la bonté de Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. La bonté de Dieu, le fait que Dieu est bon envers nous, qu'il veut notre bien. Et puis, il y a la description de la difficulté à laquelle le psalmiste est confronté. Alors, au verset 6 du psaume, « Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. » Un peu comme si nous essayons différents moyens pour nous sortir d'affaires, et que terrible pensée, nous pensons dans nos cœurs, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de prier. Combien de fois ça nous est arrivé? Alors que nous avons le remords, quelque temps plus tard, de dire « Pourquoi est-ce que j'ai commencé par essayer moi-même de me tirer d'affaire et puis de crier à Dieu après? Est-ce que ce n'est pas la première chose que nous devrions faire ?» Cette parole s'adresse à moi aussi, bien sûr. Et combien de fois j'ai regretté de ne pas avoir commencé par crier à Dieu et puis terminé le petit tableau au verset 8, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté. C'est là le remerciement merveilleux que nous pouvons faire monter devant Dieu et que nous oublions bien souvent quand le Seigneur nous a délivrés d'une situation délicate, difficile, où nous oublions de le remercier. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes. On pourra chacun continuer la méditation de ce psaume et passer à un autre psaume, au psaume 121. Psaume 121, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où vient mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours. Un autre psaume de confiance. Si vous me permettez une petite anecdote, ma grand-maman, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, quand j'étais plus jeune, me faisait apprendre chaque année un psaume. Et je trouvais ça pénible, je trouvais ça ennuyeux. Et puis maintenant, je remercie le Seigneur et je remercie ma grand-maman d'avoir choisi ce psaume 121 parmi d'autres. Parce que c'est un psaume d'encouragement qui va droit à notre cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le premier et deuxième versets sont pas faciles à décrypter, si l'on ose dire. Et les traductions sont diverses. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours? Mon secours vient d'auprès de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est le verset 2 qui explique le verset 1. Parce que Dieu nous invite à élever nos regards au-dessus des circonstances du moment et nous invite à regarder vers lui, vers le ciel. Même si le ciel n'est pas mentionné et que c'est simplement les montagnes, mais c'est d'en haut, on pourrait traduire, c'est d'en haut que vient mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, un nom de Dieu, parmi différents noms que Dieu prend. Et ce mot d'éternel, ce nom d'éternel, traduit la relation que Dieu voulait avoir avec son peuple Israël et veut avoir avec chacun de nous personnellement. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel. Et ce nom est caractéristique d'un fait merveilleux, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Comment ? Est-ce possible ? Dieu qui m'aide, qui veut m'aider, qui veut me protéger, c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Combien grande est sa puissance ? Combien sont grandes les merveilles que je peux admirer dans la création ? Qui sont toutes des manifestations de la puissance et de la sagesse de Dieu, comme nous l'apprend le premier chapitre de l'Épître aux Romains. C'est celui qui veut nous aider, qui veut que nous nous reposions sur lui. C'est ce Dieu qui a fait les cieux et la terre. Sa puissance n'est-elle pas suffisante pour m'apporter du secours ? Verset 3, il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Celui qui nous garde, même si nous faisons appel dans notre mémoire à la circonstance où les disciples ramaient pour essayer de lutter contre les flots, alors que le Seigneur dormait. Est-ce qu'il y a contradiction entre l'expérience des disciples et puis le verset 3 du psaume 121 ? Voici celui qui garde, versets 3 et 4, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. Si le Seigneur dormait dans la barque, c'était aussi pour éprouver la foi et la confiance des disciples. Et les amener à comprendre que si la tempête rugissait, que les flots faisaient que le petit esquif montait aux cieux et descendait dans les abîmes, comme pour reprendre l'expression du psaume 107, eh bien, est-ce que c'était possible que la barque coule avec le Seigneur dedans ? C'est ça la bonne question. Non. Alors, nous pouvons mettre toute notre confiance dans le Seigneur Jésus. Un autre psaume encore, et puis on pourra passer à des versets du Nouveau Testament, sans prolonger trop non plus. Psaume 62. La lecture de la parole est importante. C'est elle qui a la puissance de sauver nos âmes et de nous faire nous rapprocher du Seigneur. Psaume 62, au chef de musique sur J'ai du thym, psaume de David. Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. De lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas beaucoup ébranlé. Jusque à quand vous jetterez-vous sur un homme et chercherez-vous tous à le renverser comme une muraille qui penche, comme un mur qui va crouler? Il ne consulte que pour les précipités de son élévation. Ils prennent plaisir aux mensonges, ils bénissent de leur bouche, intérieurement, ils maudissent cela. Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu seul repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge, c'est là. Les fils des gens du commun ne sont que vanité. Les fils des grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance, ils montent ensemble plus légers que la vanité. N'ayez pas confiance dans l'oppression et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, que la force est à Dieu. Et à toi, Seigneur, et la bonté, car tu rends à chacun selon son œuvre. Voilà, je recherchais les deux expressions, celle du verset 2 et celle du verset 6. Verset 2 du psaume 62. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas beaucoup ébranlé. Verset 6. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas beaucoup ébranlé. Je ne serai pas ébranlé. On voit là David qui chante dans ce psaume la bonté de Dieu, la force, la puissance de Dieu, qui fait comme si on avait un progrès dans la proximité de David, dans la conscience de la puissance de Dieu. Je ne serai pas beaucoup ébranlé. Peut-être un petit peu quand même. Tellement la puissance et la force de l'épreuve est difficile. Et puis au verset 6, je ne serai pas ébranlé. David met sa confiance en Dieu de plus en plus. Et l'exhortation du verset 5 est merveilleuse. Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui. Oui, assez facile de dire ça quand on est à la réunion, quand tout va bien, et puis après, quand l'épreuve arrive, ben, on est un peu perdu, parce qu'on ne sait plus de quel côté se tourner. Alors, que le Seigneur nous accorde, je dis ça pour moi le premier, de nous tourner vers lui, de retrouver dans la parole des passages, des récits où l'on voit le fidèle qui est attaqué par des ennemis violents, difficiles à contrer, et puis qui jette sa confiance tout de suite en Dieu. On peut penser à Agar, et qui était dans la détresse parce qu'elle n'avait pas à boire. On peut penser au fils d'Israël qui était attaqué par les Amalékites, dès leur sortie d'Égypte et traversée la mer Rouge. Et puis, l'histoire de Joseph. Si vous relisez l'histoire de Joseph, on peut juste en dire un mot. Il y a un leitmotiv qui revient presque à chaque chapitre, chaque page, qui rythme la vie de Joseph. Et l'Éternel était avec lui. Chacun d'entre nous pourront relire la vie de ce patriarche qui a honoré Dieu par sa confiance, à qui Dieu a donné cette sagesse. Et l'Éternel était avec Joseph. Dans la prison, dans la fosse dans laquelle ses frères l'ont jeté. Et puis, est-ce que Joseph avait besoin aussi, peut-être, du fait que l'Éternel soit avec lui quand il a été élevé et mis comme premier ministre du Pharaon? Peut-être aussi Joseph était en danger à ce moment-là. Il a fait certainement, même si ça n'est peut-être pas dit, mais appel à toute la puissance de Dieu pour le protéger contre son propre cœur. Et dans les difficultés à travers lesquelles il passait. Si nous nous tournons vers le Nouveau Testament, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Au verset 16. C'est pourquoi nous ne nous lassons point, mais si notre homme extérieur dépérit, toutefois, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour, car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. On continue la lecture au chapitre 5 au début. Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Car aussi dans cette tente nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel, si toutefois même en étant vêtus nous ne sommes pas trouvés nus. Car nous qui sommes dans la tente, c'est-à-dire dans notre corps, nous gémissons étant chargés, non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais que nous désirons d'être revêtus de la gloire que le Seigneur nous donnera dans le ciel, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Voilà, on peut, pour chacun pour soi, lire la suite du chapitre pour notre encouragement. Mais ce verset auquel je pensais, c'est le verset 17 du chapitre 4, notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Qui est-ce qui a écrit ces lignes-là? C'est l'apôtre Paul. Bien sûr, nous le savons. Notre légère tribulation d'un moment. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela. et qui, par ailleurs, a aussi écrit le verset 7 du chapitre 4 de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Quelqu'un me disait il y a quelques minutes, combien nous sommes fragiles. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire qui peuvent se briser facilement. Mais afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous, étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécuté, mais non pas abandonné, abattu, mais ne périssant pas, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Étant, dans le verset 8, dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources. Verset 17 du chapitre 4, car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Ah, quel contraste! C'est l'apôtre Paul qui était persécuté, qui était dans la perplexité, qui était dans les tribulations, qui était abattu. C'est lui qui qualifie toutes ces circonstances difficiles, douloureuses, de légères tribulations d'un moment. Alors on pourrait dire, mais l'apôtre Paul, il exagère un peu parce que les circonstances par lesquelles moi je passe sont vraiment pas une légère tribulation d'un moment. Et pourtant, est-ce que c'est bien là la vision que le Seigneur peut nous donner, si nous regardons à lui, quant aux circonstances douloureuses, difficiles que nous traversons? Quel bonheur de pouvoir nous reposer sur le Seigneur Jésus. Alors, ce qui préoccupait l'apôtre, il le décrit aussi au chapitre 11. On peut s'y référer. De Corinthiens 11, verset 23, au milieu du verset, dans les travaux surabondamment, sous les coups excessivement, dans les prisons surabondamment, dans les morts souvent, cinq fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un, trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans les profondeurs de la mer, en voyage souvent, dans les périls sur les fleuves, dans les périls de la part des brigands, dans les périls de la part de mes compatriotes, les Juifs, dans les périls de la part des nations, dans les périls à la ville, dans les périls au désert, dans les périls en mer, dans les périls parmi de faux frères, en peine et en labeur, en veille souvent, dans la faim et la soif, dans les jeûnes souvent, dans le froid et la nudité. Outre ces choses exceptionnelles, il y a ce qui me tient assiégé tous les jours, la sollicitude pour toutes les assemblées. Résumé saisissant de la vie de chaque jour de l'apôtre Paul. Ah, nous n'en sommes pas là, pas moi, en tout cas pas moi. Mais le Seigneur peut nous encourager, nous fortifier, nous aider à faire des progrès avec lui. Et ces progrès nous rendront heureux, paisibles, peut-être pas joyeux, mais en tout cas, pourront nous laisser un souvenir, le souvenir que le Seigneur veut nous laisser, celui de sa miséricorde.
Une pensée, disons plutôt deux exemples très pratiques que nous pouvons tous rencontrer. Disons deux exemples que je vais lire juste et puis un troisième en perspective. D'abord une pensée. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup lire tout ce qui concernait la mer, les marins, la voile, ces choses-là. Je suis un terrien, je ne connais pas ça dans la pratique. Je ne suis qu'un théoricien, mais je pense à ce que connaissaient les navigateurs qui allaient, les commerçants qui allaient d'Angleterre vers l'Australie, fin du 19e siècle, avec ces bateaux à voile qui devaient transporter des marchandises, taillées pour la vitesse et pour des voyages qui duraient 3 mois. Et dans ce qu'on appelle les 40e rugissants, la zone entre la pointe de l'Afrique et l'Australie, qui est en tempête tout le temps. C'était une navigation dure et il y avait 2 techniques pour traverser ces passages. Tant que la tempête n'était pas trop forte, aller avec le vent. Donc sortir beaucoup de voiles pour se faire emporter par le vent dans le sens de la tempête. Une façon de naviguer où le bateau est très instable, où il faut tout surveiller tout le temps parce qu'il y a beaucoup de voiles dehors. Voilà, le risque de perdre le fil du vent, est grand, donc une navigation fatigante et vigilance tout le temps. Et puis quand la tempête devient trop forte et qu'on n'arrive plus à contrôler le bateau, ben il faut faire le contraire. Il faut faire demi-tour et montrer l'avant du bateau vers le vent. Et pour faire ça, il y a 2 problèmes. Il faut enlever beaucoup de voiles et puis il faut faire le demi-tour. On se retrouve à un moment en travers du vent. Situation particulièrement dangereuse. Parce que si les bateaux gîtent trop fort, il peut ne plus se relever. Et arriver à être là, contre le vent, avec un minimum de voile à l'avant, pour garder le bateau plus ou moins immobile, entraîné par les flots, avec ce qu'il faut de voile, le minimum qu'il faut de voile, pour garder toujours cette direction contre le vent. Je trouve que ça illustre les tempêtes que nous rencontrons dans la vie. Et je voudrais lire juste... Disons, les tempêtes et notre attitude en image. Et je voudrais lire 2 courts récits qui se suivent, le premier chapitre de l'Exode. Au verset 15, verset 16, où le Pharaon donne des instructions aux sages-femmes, et il leur dit, verset 16, « Quand vous accoucherez les femmes hébreues et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, vous le ferez mourir, et si c'est une fille, elle vivra. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait dit. Elles laissèrent vivre les enfants mâles. Et un peu plus loin, la chose est répétée, verset 20, « Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très fort, et il arriva parce que les sages-femmes craignirent Dieu qu'il leur fit des maisons. » Situation très pratique, que je voudrais comparer, mettre en perspective avec la vie dans le monde du travail, dans ce monde, pour tous ceux qui sont dans l'activité professionnelle. Toutes sortes d'instructions qu'on peut recevoir, qui manifestement comportent des éléments discrets ou très flagrants, qui sont contraires à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, aux instructions de Dieu. Voilà, c'est très concret, je pense que tous ceux qui sont ou qui ont été dans le monde du travail ont connu des situations similaires d'une manière ou d'une autre. Voilà, là, il y a l'ordre. Et voilà, alors c'est une tempête, comment agir ? Comment être à sa place et comment obéir à Dieu, tenir ferme. Le petit mot qui répétait deux fois, elles craignirent Dieu. Il n'est pas parlé là de confiance, il est parlé de cette crainte, de cette conscience, de la grandeur de leur Dieu qu'elles veulent suivre. Et quelque part, il y a ce côté de se jeter à l'eau, sans raisonner, compter, sur comment le Seigneur donnera ce secours. La première fois, il nous est dit, verset 17, « Elles craignirent Dieu et ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait dit. » Je ne veux pas dire par là que nous devons systématiquement ne pas faire les choses qu'on nous dit. Nous avons besoin, dans tous les cas, d'avoir affaire au Seigneur pour qu'il nous montre comment passer cette tempête. Est-ce le moment de se laisser entraîner par le vent ou le moment de faire le demi-tour et de dresser la proue vers le vent, contre le vent? Mais la deuxième fois où il nous est dit qu'elle craignirent l'Éternel, c'est après. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple multiplia, parce que les sages-femmes craignirent Dieu, il leur fit des maisons. Puis la deuxième récit suit tout de suite. Et le Pharaon commanda à tout son peuple, disant, « Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve. » Mais toute fille laissait la vie. Il ne s'adresse plus aux sages-femmes, il s'adresse à tout le peuple. Et puis enchaîne ce récit de la venue au monde, de la naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de Lévi, et la femme conçut, elle enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau, elle le cacha 3 mois. Première étape. Et comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc et l'enduisit de bitume et de poix, et mit dedans l'enfant et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Je m'arrête juste là un instant. Deux étapes. Première étape, elle cacha l'enfant 3 mois. Puis arrive ce moment où ça devient difficile de cacher. L'enfant qui pleure, il ne suffit pas de le mettre au sein pour qu'il se taise. On ne peut plus cacher de la même manière. Alors, on peut dire « elle obéit sans obéir ». Elle met bien l'enfant au fleuve. Mais dans ce coffret de jonc enduit de bitume et de poix, un petit détail que la parole, que notre traduction ne rend pas, ce coffret de jonc, dans l'hébreu, c'est le même mot utilisé pour l'arche de Noé, qui est un autre mot que pour l'arche de l'Alliance, deux mots tout à fait différents. C'est le passage au latin qui a fait que c'est le même mot aujourd'hui, on parle de l'arche dans les deux cas. Mais là, l'arche de Noé ou le coffret de jonc, c'est la même chose. Et on a un lien là. L'arche de Noé qui a été le secours pour Noé et sa famille dans le jugement de Dieu. Le coffret de jonc enduit de bitume et de poix, et elle le pose dans les roseaux sur le bord du fleuve. Ça m'a fait penser beaucoup à nos frères et sœurs qui ont des enfants, des jeunes enfants qui doivent les mettre à l'école à 3 ans. Quand ils vont à l'école, que ce soit autrefois ou c'est un peu plus tard ou maintenant, c'est le début d'une tempête qui va durer de nombreuses années. L'école, bien sûr, on peut apprendre beaucoup de choses, mais en même temps, que de sources de tourmentes pour les enfants qui grandissent et qui apprennent beaucoup de mauvaises choses mélangées à un peu de bonnes choses ou de choses utiles, et que aussi bien pour les parents qui doivent gérer des choses qui leur viennent sans qu'ils s'y attendent, sans qu'ils aient été préparés. Mais il faut ce bitume, ce coffret de jonc, enduit de bitume et de poix. La foi de la mère de Moïse lui fait avoir l'intelligence de ce moyen pour protéger ce petit enfant. Et je saute juste pour ne pas rallonger. Verset 8. Verset 8 à la fin. La jeune fille, donc la sœur de Moïse, alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. » La réponse de Dieu à la foi, c'est que non seulement elle reçoit la mission, le travail, elle reçoit l'ordre d'allaiter son enfant, Et en plus, elle est payée pour cela. Par la fille de celui qui voulait détruire tous ses enfants mâles. L'œuvre de l'ennemi est tournée à l'inverse par Dieu qui bénit et qui répond à la foi des parents de Moïse. Allaite pour moi. Voilà ce qui lui est demandé, qu'elle reçoit bien sûr de l'Éternel. Et c'est un encouragement aussi pour nos enfants, quel que soit leur âge. Il y a une ressource pour qu'ils soient gardés, il y a une ressource pour les entourer, il y a une ressource. Ces passages que nous avons considérés, nous passons en revue toute cette ressource qu'il y a auprès de Dieu pour mener à terme ce que le Seigneur nous demande dans les tempêtes. Dans les tempêtes variées. Troisième exemple que je ne vais pas aborder, mais que je mets devant chacun de nous, le livre de Daniel nous présente le chemin d'une personne qui débute comme un jeune homme et qui termine comme un vieillard. On est au bout des 70 ans de la déportation. Et il a été déporté avant la destruction de Jérusalem. Chaque chapitre, au fond, de la vie de Daniel nous le présente confronté à une tempête et marchant dans cette confiance en Dieu et dans cette foi, dans cette dépendance et nous montrant toutes les manières dont Dieu montre sa fidélité.